Vous écoutez, on lit pour vous.
Pollue-t-on la Lune? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 23 juin 2024 dans La Presse. Un lecteur, Bernard Cyr, demande « Existe-t-il des scientifiques qui sont contre l'exploration spatiale telle qu'elle se fait présentement, qui reproduit la pollution éhontée que nous effectuons sur Terre? » La question tombe à point nommé. La NASA vient de solliciter des avis sur les risques d'une contamination des sites lunaires par les missions prévues. Et un congrès a eu lieu la mi-juin 2024 sur les leçons de la justice environnementale terrestre qui pourraient être appliquées à la pollution engendrée par les activités spatiales sur les autres planètes. Les plans actuels d'exploration lunaire ne sont pas en tant que tels critiqués à cause du risque de contamination, explique Parvati Prem, astrophysicienne de l'Université Johns Hopkins, qui a publié en 2020 dans la revue JJR Planets une analyse de la contamination de la glace lunaire par le carburant des missions passées et à venir. Mais il y a de plus en plus de travail sur la quantification des risques de contamination afin de mieux planifier les missions. Il faut tout d'abord décider ce qui constitue une contamination sur des sites spatiaux. La conférence virtuelle, organisée par Just Space Alliance, un organisme américain fondé en 2018, comporte des séances sur les droits de la nature, sur la vie non humaine et sur l'intersectionnalisme environnemental. Madame Prem a co-signé en avril 2024 dans Nature Astronomy un appel à tenir compte de l'avis des Premières Nations sur l'exploration spatiale, en réaction au projet privé de répandre des cendres sur la Lune en janvier 2025. La mission privée, Peregrine, a finalement connu un échec complet et n'a pas atteint la Lune. Anthropocène lunaire. À l'hiver 2023, dans Nature Géosciences, un géo-archéologue de l'Université du Kansas, Justin Holcomb, a proposé de définir une ère géologique lunaire entamée en 1959 avec la sonde soviétique Luna 2, l'Anthropocène lunaire. Justin Holcomb affirme « Les missions humaines modifient la géologie des planètes que nous explorons avec la contamination en carburant. Je m'appuie sur les travaux antérieurs des archéologues spatiaux qui veulent préserver les sites archéologiques importants sur la Lune, par exemple les sites visités par le programme Apollo. Au début de 2023, le Conseil international sur les monuments et les sites, ICOMOS, une ONG établie à Paris, a créé un Conseil sur le patrimoine aérospatial, ISCOAH. M. Holcomb fait partie d'ISCOAH et a présenté en mai, à sa conférence inaugurale, son concept d'anthropocène lunaire. Ce comité veut impliquer les programmes spatiaux chinois et russes dans le souci de la contamination et de la préservation archéologique spatiale. Notre président, Guy Jorayev, est un spécialiste de l'histoire du programme spatial soviétique et il vient d'accepter un poste universitaire à Mako, dit M. Holcomb. C'était « Pollue-t-on la Lune », un texte de Mathieu Perrault, paru le 23 juin 2024 dans La Presse.
La concurrence piéton-automobiliste, un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 juin 2024 dans La Presse. L'autre jour, ma blonde a failli passer sous les roues d'un camion au centre-ville de Montréal. C'est ce qu'on appellerait en aviation un « near miss », un quasi-accident. Le feu était vert en direction est-ouest pour les piétons et pour les automobilistes à l'immense intersection Robert-Bourassa de la Gauchetière. Madame Lagacé traversait d'est en ouest cette intersection achalandée donc sur de la gauchetière. Elle a senti un camion arriver derrière elle, un poids lourd, qui a entrepris de tourner à gauche vers le sud sur Robert Bourassa. Elle a instinctivement ralenti sa foulée d'une nanoseconde providentielle en sentant le camion qui s'apprêtait à entrer dans sa trajectoire de piétonne. Sinon, le camion la percutait. Il y a plusieurs façons de décortiquer ce near-miss qui aurait pu tuer stupidement cette piétonne, qui est bien sûr plus qu'une piétonne. Elle est une mère, une fille, une sœur, une amie, une cousine, une blonde. D'abord, il y a la stupidité du camionneur. S'il a vu la piétonne et qu'il l'a quand même coupée, c'est un danger public. S'il ne l'a pas vue, c'est aussi un danger public. Conduire un camion exige un sang-froid et une retenue immense en tout temps, particulièrement en milieu urbain, où les plus vulnérables usagers de la route abondent, piétons et cyclistes. Si le bon Dieu existait, ce gars-là pognerait une terrible gastro lors du long week-end de la fête du Dominion. Mais le bon Dieu n'existe pas, et ce gars-là ne saura jamais à quel point il est passé proche de se retrouver dans un communiqué de presse du SPVM sous la proverbiale formule « Le chauffeur du camion n'a pas été blessé, mais a été traité pour un choc nerveux ». Peut-être s'en fout-il. L'autre façon de décortiquer ce qui aurait pu être un drame absurde et inutile, c'est par l'angle de l'aménagement hyper dangereux de cette intersection. Je parle de l'intersection Robert Bourassa de la Gauchetière, mais on peut dire la même chose de toutes les intersections de grandes artères qui ont cette détestable particularité de mettre piétons et véhicules en concurrence. Il est totalement irresponsable qu'existe encore à Montréal des intersections de grandes artères où piétons et véhicules se disputent l'espace-temps d'un feu vert pour traverser. Cas de figure. Plusieurs piétons traversent au feu vert, la silhouette blanche du piéton leur en donnant le droit. Les véhicules ont aussi le droit de s'avancer dans l'intersection, le feu étant vert pour eux. Bien sûr, les piétons ont priorité. Mais le danger ici reste entier. Les voitures peuvent tourner au feu vert et pour tourner, il faut forcément s'immiscer dans la trajectoire des piétons. Il faut jauger le bon moment pour tourner, pour s'insérer entre deux groupes de piétons, par exemple. C'est ce que je veux dire par mettre les piétons et les véhicules en concurrence. C'est un aménagement stupide et dangereux, au-delà de la stupidité et de la dangerosité des humains qui marchent et qui conduisent. En fait, il y a ici deux types de concurrence, pour l'espace et pour le temps. La concurrence pour l'espace, les véhicules ne devraient pas tourner à un feu vert pendant que des humains traversent à pied dans le même couloir d'asphalte. La concurrence pour le temps, tout le monde est pressé. Tout le monde veut arriver à destination rapidement. La travailleuse de l'information et le chauffeur de poids lourd, le banquier et la chauffeuse Uber. Or, tout le monde, automobiliste, chauffeur et piéton, a littéralement un œil sur l'horloge. Le décompte est visible pour tous, sous la silhouette blanche du piéton affichée aux intersections. 17 secondes, 16, 15, 14... 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et ça tombe au rouge. Vous trouverez souvent un piéton pour amorcer sa traversée alors qu'il n'aura manifestement pas le temps de la terminer. Vous trouverez une camionneuse ou un automobiliste qui va foncer entre deux groupes de piétons parce qu'il lui reste légalement 2 secondes pour tourner. Ce balai dangereux est une conséquence directe d'un aménagement dangereux. Si vous mettez en concurrence des véhicules et des piétons qui disposent à peu près du même espace-temps pour traverser une intersection, si vous les forcez à se croiser et à se frôler, vous jouez au dé avec la sécurité des piétons. Cet aménagement multiplie les risques d'erreurs fatales. Une impatience, une distraction, et c'est la collision. J'ai en tête un exemple d'aménagement intelligent qui réduit les risques de collision aux intersections. Je parle des feux pour cyclistes distincts des feux pour voitures, qu'on retrouve par exemple sur le Rêve, rue Saint-Denis. Ces feux distincts limitent les interactions malheureuses et donnent aux deux parties, cyclistes et véhicules, amplement de temps pour s'engager dans une intersection, chacun son tour. Autre exemple d'aménagement intelligent, les saillies de trottoirs qui créent un entonnoir aux intersections balisées par des stops dans les quartiers résidentiels, ce qui limite les dépassements stupides d'automobilistes pressés au carrefour. Bref, le constat s'impose. La ville de Montréal ne devrait plus tolérer cette concurrence véhicule-piéton aux grandes intersections. Chacun devrait avoir son moment pour s'engager pour tourner. En matière de sécurité routière, on peut multiplier les campagnes de sensibilisation et les manières de sanctionner les automobilistes, mais trois mots sont importants pour limiter le nombre d'accidents. Aménagement, aménagement, aménagement. C'était « La concurrence piéton-automobiliste », un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 juin 2024 dans la presse.
Les sœurs Dionne. Toute une vie pour obtenir justice. Un texte de Marc Poirier, de Franco-Presse, paru le 30 mai 2024 dans « Le goût de vivre », une plume sur la réalité franco-ontarienne. Elles étaient cinq. 90 ans plus tard, elles ne sont plus que deux. Les quintuplés Dionne ont passé leur vie entre la célébrité, l'exploitation, l'exclusion et l'injustice. Un parcours imposé dont plusieurs ont, ou auraient dû avoir, honte. Voici l'histoire très chaoteuse et très chaotique de ces enfants miracles. En ce 28 mai 1934, la naissance des quintuplés est en effet miraculeuse et leur survivance inespérée. Prématurés de 2 mois, les bébés Dionne pesaient, ensemble, 13,4 livres, 6 kilos à leur naissance. La plus petite ne faisait que 1,8 livres, moins de 1 kilo. Les jumelles identiques viennent au monde dans la ferme de leurs parents, Oliva Dionne et Elzire Legros, près de Corbeil, petit village franco-ontarien, non loin de North Bay. Les deux premières filles sont venues au monde avec l'aide de 2 sages-femmes. Pour la troisième, la mère est assistée par le docteur Alan Roy Dafoe, arrivé sur les lieux entre-temps. Le médecin veillera aussi à l'accouchement des 2 derniers bébés. Le personnel médical a dû faire preuve de beaucoup d'improvisation et d'ingéniosité pour maintenir les poupons en vie. Avant l'arrivée des incubateurs, les quintuplés ont été placés près d'un four avec des bouillottes et des briques chauffées pour les garder au chaud. Elles ont d'abord été nourries avec du lait de vache mélangé à de l'eau bouillie, additionné d'un soupçon de sirop de maïs et d'une ou 2 gouttes de rhum pour les stimuler. Puis, des femmes de la région qui allaitaient leur enfant ont fourni du lait maternel. La probabilité d'une naissance naturelle de quintuplé provenant d'un même ovule, sans aide artificielle à la fécondation, est de 1 sur environ 55 millions. Ce sont les premiers enfants quintuplés connus à survivre l'âge de la petite enfance. Survivre est une chose, avoir une enfance en est une autre. Exposé publiquement dès la naissance. La nouvelle de cette naissance hors du commun faire rapidement le tour du monde. Quelques jours seulement après l'accouchement, des représentants de l'Exposition universelle de 1933-1934 à Chicago approchent Oliva pour lui demander d'exposer ses poupons. Sur les conseils du docteur Dafoe et du prêtre du village, le père accepte l'offre. Prenant conscience de l'engagement qu'il venait de prendre, Oliva annule le contrat quelques jours plus tard. Mais le mal est fait. Le gouvernement ontarien décide de retirer la garde des enfants aux parents qui en avaient déjà 5 avant l'arrivée des quintuplés. Le gouvernement ontarien disait vouloir notamment les protéger de l'exploitation privée, ce qui n'empêchera pas l'exploitation publique. Le cirque commence. Les sœurs Dionne sont confiées à 3 tuteurs, le principal étant nul autre que le docteur Allen Roy Dafoe. Les enfants sont placés dans un hôpital bâti spécialement pour elles, tout près de la maison familiale. Les responsables autorisent les curieux à venir jeter un coup d'œil sur les enfants à travers une fenêtre de l'hôpital où elles étaient exposées 4 fois par jour. Par la suite, le gouvernement provincial aménage une véritable galerie d'observation pour accommoder les visiteurs, de plus en plus nombreux, qui peuvent ainsi observer 2 fois par jour les quintuplés à travers un grillage, presque comme dans un zoo. Le père des jumelles tenait un petit stand où il vendait des souvenirs, comme des photos, des cuillères, des poupées et des cartes postales. Le tout formait un véritable petit site d'attraction qu'on a surnommé Quintland. La popularité des quintuplés explose. Jusqu'à 3000 personnes par jour défilent devant l'hôpital des sœurs Dionne. Par moments, le nombre de visiteurs dépasse celui des chutes Niagara. On estime qu'entre 1936 et 1943, près de 3 millions de personnes sont venues voir les quintuplés, ce qui a rapporté plus d'un demi-milliard de dollars au coffre du gouvernement de l'Ontario, l'aidant à se sortir de la crise économique de la Grande Dépression. De son côté, le docteur Dafoe s'est aussi enrichi grâce à la renommée des jumelles Dionne. Lors de son décès, en 1943, on découvre qu'il avait amassé en honoraires pour des conférences, entrevues médiatiques, participation à des émissions radio et autres, plus de 180 000 $, soit l'équivalent de plus de 3 millions de dollars d'aujourd'hui. Quintland attire aussi de grands acteurs américains, dont Clark Gable, James Stewart, Bette Davis, Mae West et James Cagney, de même que l'aviatrice Amelia Earhart, venue 6 mois avant son vol fatidique. Leur image est vendue à qui veut bien l'acheter. Il semble que l'exposition publique de l'hôpital ne suffisait pas. Les fillettes figureront dans des publicités d'une multitude de compagnies. Lysol, Palmolive, Colgate, Quaker Oats, Lay Carnation et bien, bien d'autres. Elles ont participé à 3 films d'Hollywood, 2 en 1936 et 1 en 1938. En gros, elles ont été filmées à l'hôpital en train de jouer ensemble. Un documentaire intitulé « Five Times » a également été réalisé en 1940 et a obtenu une nomination aux Oscars l'année suivante. Pendant tout ce temps, les parents tentaient de ravoir la garde de leurs enfants, ce qu'ils ont finalement réussi à obtenir en 1943, alors que les fillettes avaient 9 ans. La famille déménage alors dans une grande maison de 20 pièces à proximité. Le tout est payé grâce à un fonds de fiducie mis sur pied par l'Ontario pour financer les dépenses liées aux jumelles Dionne. Le fonds reçoit des montants payés pour des droits de publication ou encore une partie des profits de la vente de produits dérivés. Mais les sommes reçues disparaissent en bonne partie parce que la province pige dans le fonds pour payer, par exemple, les dépenses des photographes, la nourriture des quintuplés et autres. Au bout du compte, la famille ne touche que 746 $ par mois. Justice finalement obtenue à l'âge de la retraite. Les quintuplés Dionne ont passé leur vie à tenter d'obtenir compensation pour leur traitement et leur exploitation. En 1998, le premier ministre ontarien Mike Harris a offert 2000 $ par mois à vie à chacune des trois survivantes, Émilie étant décédée en 1954 et Marie en 1970. Elles ont considéré cette offre comme une insulte. Elles réclamaient plutôt 10 millions de dollars. Finalement, une semaine plus tard, une entente est conclue. Les trois sœurs obtiennent 4 millions ainsi que des excuses publiques du gouvernement. Elles ont alors 63 ans. Une troisième sœur, Yvonne, décède en 2001. Les deux survivantes, Annette et Cécile, qui vivent aujourd'hui à Montréal, ont célébré leur 90e anniversaire. Elles seront honorées par la municipalité de North Bay. C'était Les sœurs Dionne, toute une vie pour obtenir justice. Un texte de Marc Poirier, de Franco-Presse, paru le 30 mai 2024 dans Le goût de vivre, une plume sur la réalité franco-ontarienne.
Les oiseaux se cachent pour mourir. Un texte de Raphaël Germain, paru le 24 mai 2024 dans La Presse. Les poules ne sortaient pas. Normalement, le matin, lorsque j'ouvre la porte du poulailler, elles sortent une par une, petit défilé de cocottes interloquées à l'assaut du jardin. Polly se présente généralement la première. C'est une belle rouquine qui est apparue chez nous l'été dernier sans qu'on ne sache ni comment ni d'où elle était venue. Elle était hirsute et mangeait peu, même quand je l'éloignais des autres poules qui la picossaient sans relâche. Elle a vraiment l'air polytraumatisée, avait fait remarquer quelqu'un, et le nom est resté raccourci en Polly depuis qu'elle a fait sa place et commencé à pondre. Un matin, il y avait un œuf à sa petite place, tout au fond du poulailler, et parce que je ne peux m'empêcher de faire de l'anthropomorphisme, j'étais tout ému. J'avais l'impression que c'était sa manière de nous dire merci. C'est donc maintenant elle qui sort en tête, suivie en général de Crête Croche, une toute petite Plymouth Rock au mauvais caractère dont le nom fait peu de mystère, et de sa sœur, la grosse, une belle et bonne fille, fidèle et un peu lente. Or ce matin-là, personne. Quand je suis allé voir, inquiète, Crête Croche et Polly étaient debout et regardaient la grosse qui avait l'air de couver au milieu du poulailler. Je leur ai parlé un peu. Elles ont fini par sortir, mais la grosse n'allait pas bien. Nul besoin d'un diplôme en sciences vétérinaires pour voir ça. Elle faisait quelques pas, puis restait debout sous la pluie en respirant très fort. Je lui apportais de l'eau, des vers de terre ou une tranche de pastèque qu'elle picossait à peine. L'anthropomorphisme ne me lâchant décidément pas, j'avais des envies de la prendre et de la caresser, de lui faire une petite bouillotte et de l'installer devant Netflix avec une tasse de nez au citron, mais elle voulait être seule, évidemment. Les oiseaux se cachent pour mourir n'est pas que le titre d'une télésérie qui a mal vieilli. C'est un fait. L'Amérique du Nord compte aujourd'hui près de 3 milliards d'oiseaux de moins qu'en 1970, soit 30 % de la population. L'Europe en aurait perdu autour de 400 millions entre 1980 et 2009. Ces chiffres ont beau s'étendre sur une cinquantaine d'années, ils restent effarants. C'est beaucoup, 3 milliards de petites vies. Pourtant, nous ne passons pas nos journées à nous enfarger dans des oiseaux morts. Leur disparition, d'une poignante discrétion, a lieu loin des regards. C'est que, ce ne sont pas tant les oiseaux en tant qu'individus qui se cachent pour mourir que des espèces entières qui s'éteignent sans qu'on le remarque. Des oisillons qui ne voient tout simplement jamais le jour, leurs parents n'ayant plus retrouvé au retour de leur migration les bois et les landes où ils nichent normalement ou n'étant pas parvenus à destination faute d'avoir pu se nourrir en chemin. Des populations qui déclinent en silence. Sur des îles lointaines, rongées par la montée des eaux et dénudées par l'introduction d'espèces invasives. On parle peu de cette lente extinction. Occasionnellement, la presse spécialisée tente de nous alerter à ce sujet, mais il reste que dans les faits, la silencieuse disparition de 3 milliards d'oiseaux n'est pas un sujet qui doit ressortir souvent dans les 5 à 7 et les soupers de famille. On serait plutôt malvenu de nous blâmer. Après tout, nos cieux restent remplis d'oiseaux et nos banlieues bruissent de chants. Les pigeons, les moineaux et les carouches peuplent nos villes. Ils semblent tisser à même l'air qui nous entoure. Sur le bord de nos rivières nichent les canards branchus et les aigrettes, des colverts bonasses et des bernaches qui viennent manger dans les mains tendues des petits-enfants. Et sur nos lacs, le beau cri du huard, si pur et trompeur. Comment ne pas croire en l'indestructibilité de la nature quand il retentit dans l'air du soir? Nous réagirions sans doute plus si des hécatombes aviaires nous tombaient dessus régulièrement. Mais les chiffres sont là. Malgré les efforts souvent fructueux des organismes de protection de la faune aviaire, plusieurs espèces disparaissent alors que d'autres vivotent au bord de l'extinction. Certains diront que c'est bien triste, mais qu'une paruline azurée pèse bien peu dans la terrible balance de l'actualité. Pourtant, ces beaux oiseaux qui peinent à exister sont les canaries dans la mine à ciel ouvert qu'est devenue la planète. La grosse, elle, a eu une deuxième chance. Dorlotée et domestiquée, elle est sortie un matin, l'œil vif et la patte alerte, telle une jeune poulette au sommet de sa forme. J'étais contente et pas trop étonnée. Les oiseaux sont d'une robustesse extraordinaire. Mais il y a des limites à leur adaptabilité, et si le déclin de ces bêtes si résilientes nous dit quelque chose, c'est bien que le monde est de moins en moins habitable. Alors, on devrait peut-être les écouter avant de ne plus les entendre. Les oiseaux se cachent pour mourir, un texte de Raphaël Germain, paru le 24 mai 2024 dans la presse.